que ce dallage marque la tombe de Romulus. D'autres disent que c'est la tombe de Faustulus, qui serait le père adoptif de Romulus et Rémus. D'autres disent que c'est la tombe du grand-père du troisième roi de Rome. On trouve quelque chose qui est cité par les sources littéraires. Ça donne l'impression qu'on a une preuve tangible, matérielle, de la véracité de ce que raconte Tite Live, Denis d'Halicarnasse, Plutarque.
Dans les mois qui suivent la découverte du lapis niger, on découvre sous le dallage un sip, une stèle recouverte d'inscriptions en latin archaïque assez peu compréhensible. Un mot va toutefois attirer l'attention des chercheurs. Le mot recai, datif de rex, c'est-à-dire roi. Pour certains archéologues italiens, plus de doute. On tient là la confirmation que la période royale a bel et bien existé.
Donc paradoxalement, en fait, cette découverte archéologique, elle va d'abord être finalement utilisée pour confirmer les sources littéraires, pour dire on a encore une fois convergence. Voilà, on trouve une inscription avec le terme roi, donc ce que dit Tite Live sur la période royale et donc sur la fondation est vrai. Donc à partir de la découverte du lapis niger, l'archéologie va prendre une place en fait assez particulière. Elle va servir en fait essentiellement à confirmer ou infirmer ce que disent les sources littéraires. Donc elle apparaît vraiment comme une science auxiliaire. C'est à partir de l'après-guerre, où des fouilles plus systématiques, avec aussi la généralisation de la fouille stratigraphique, d'une fouille scientifique, va permettre à l'archéologie de poser ses propres questionnements.
Alors l'archéologie, comme science des archives du sol, qu'est-ce qu'elle nous révèle de la fondation de Rome ? Rien. Elle nous dit simplement qu'il n'y a pas de fondation, qu'il y a une formation.
Mais s'il n'y a pas eu de premier jour, on commence quand ? Est-ce qu'on commence à raconter l'histoire de la formation du site avant les hommes, quand les grands événements telluriques sont les acteurs de l'histoire ? Est-ce qu'on va parler du moment entre 1600 et 1400 avant notre ère, où les hommes ne sont que de passage ? Disons en tout cas qu'entre 1300 et 1000 avant notre ère, on voit se former des villages. Ce sont les premières tombes qui apparaissent sur ce site qui deviendra le site de Rome. Il y a ce qu'on peut appeler, avec beaucoup de précautions, une proto-urbanisation.
C'est au fond une histoire lente, presque imperceptible, pas très spectaculaire, que l'archéologie nous révèle. Bah oui, c'est de la science. Et donc, cette archéologie, elle est très déceptive par rapport au mythe, parce qu'elle annule l'idée même qu'il puisse y avoir eu une fondation de Rome. Il y a eu une formation lente, longtemps indistincte, indiscernable, d'une ville qui commence à devenir une ville. Mais il n'y a pas eu de premier jour. On pouvait s'en douter.
Il n'y a pas de premier jour ? Mais il y a un moment important qu'on date entre 640 et 580, au début de l'âge de fer. L'habitat a tendance à se resserrer autour du Palatin. Les cabanes deviennent des maisons aux toits de tuiles. Le sol est aménagé, particulièrement au forum, par drainage. Les tombes se vident. Cela veut dire que la richesse va s'investir ailleurs, notamment dans ce qu'on pourrait appeler des équipements urbains. Nous sommes donc au VIe siècle, et là on tient à coup sûr une ville. Il y a donc des moments importants autour du Xe siècle, d'autres autour du VIe siècle, mais on a sauté le 21 avril 753. La fondation, au sens propre, n'a pas eu lieu.
Donc nous voilà au sol. Ce sol, il est archéologique. C'est celui qui porte les empreintes du temps. Mais nous voilà aussi au sol du point de vue politique.
Si le sol est politique, Rome doit commencer ailleurs. Rome doit commencer avant. Nous devons revenir à Énée, tel Auguste qui, pour asseoir sa grandeur, avait ramené à lui le mythe des origines. Il nous faut lire l'Énéide du poète Virgile. Je vais chanter la guerre, et celui qui, exilé, prédestiné, tout a commencé par lui, vint des parages de Troie pour aborder à Lavinium. C'est ainsi que commence l'Énéide, comme un chant grec, comme une épopée homérique. Énée va naviguer comme Ulysse, puis il va se battre comme Achille. Mais, contrairement à l'Odyssée, l'Énéide n'est pas le chant du retour. C'est le chant du passage, le poème de l'exil. Énée ne reviendra pas à Troie. Il s'arrête là, à Lavinium. Parce qu'Énée s'y arrête, l'Avinium est désigné par la communauté romaine comme son origo, c'est-à-dire comme ce point d'ancrage hors de la ville que tout nouveau citoyen romain se voyait attribuer. L'origo n'est pas l'origine. Il ne s'agit pas d'un lieu de naissance, mais d'une fiction juridique qui signifie que chaque Romain vient toujours d'ailleurs.
Et ça, ça veut dire que, d'une certaine manière, la grandeur de Rome est là. Les Romains, pour être Romains, doivent accepter l'idée qu'ils viennent toujours d'ailleurs, qu'ils sont étrangers, et que cette altérité est constitutive de leur identité. Et c'est pourquoi tous les Romains doivent regarder en face cette histoire, leur propre histoire, celle qui les fait étrangers à la ville qui les accueille et dont ils acceptent, au fond, de chanter la légende.
Et pendant ce temps-là, dans le monde, les plus grandes villes du monde sont alors en Chine. Xi'an, capitale des Chou, et bientôt Luowang, dès lors que la période dite des printemps et automnes érode le pouvoir de la dynastie. Reste que le grand mouvement d'essaimage urbain est méditerranéen. Carthage, Syracuse, Mégara Ibléa. En Méditerranée occidentale, mais aussi en mer Noire et en Libye, l'élan de colonisation fixe les cadres politiques et les formes urbaines de la cité grecque. Le monde grec se chante avec Hésiode et Homère. Il se prépare pour les 7e Olympiades, qui auront lieu en 752. Jusqu'en 736, les Messéniens écrasent le concours, raflant toutes les médailles, qui ne sont d'ailleurs pas des médailles, mais une couronne d'olivier sauvage et un ruban de laine rouge récompensant les champions. Le premier dont on conserve le nom est Messénien. Il s'agit de Daéclès.
Alors on pourrait dire que pour l'historien, c'est simple. L'histoire de la fondation de Rome, c'est l'histoire de la fondation du mythe de la fondation de Rome. Et tout le reste est hors champ de l'histoire. Tout le reste serait le domaine du mythe. Mais en même temps, ce sillon, il a bien été creusé quelque part. Alors on peut croire qu'on en trouve une trace dans le sol romain, mais ce qui est sûr, c'est qu'il a laissé une trace dans l'imaginaire des hommes et dans l'imaginaire politique. Et que cette image, elle arrive jusqu'à nous. Cet événement, c'est un avènement. Ce qui advient ce jour-là, c'est évidemment une croyance. C'est la croyance en l'idée même qu'il puisse y avoir un premier jour.